RCF.
Père Michel Berger, bonjour.
Bonjour Anne-Marie.
Merci de m'accueillir dans votre église.
Et soyez bienvenue.
On en parle beaucoup de cette église parce que vous, depuis des années, vous commencez à restaurer toutes les chapelles, à reposer des tableaux, à restaurer des tableaux et cette fois-ci à reposer un orgue.
Alors j'ai eu la chance d'arriver ici comme curé en 2017 et d'arriver à un moment favorable où depuis des décennies, des travaux de réflexion et de décision avaient eu lieu. Et dès le lendemain de mon installation, il y a eu des échafaudages dans la première travée, celle du fond, celle de l'ouest. Et pendant un an ont été repris toute la voûte, le mur occidental et les chapelles latérales. Et on a fait ressortir, enfin, quand je dis « on », c'est la mairie qui a commandé les travaux et ensuite l'architecte des monuments historiques, Didier Réplin, et tous les corps de métier qui ont fait ressortir le décor de 1819.
C'est extraordinaire quand même, une église qui a encore tout son décor de peinture. Il n'y en a plus beaucoup dans le Vaucluse.
C'est vrai, et la particularité de la cathédrale d'Orange, c'est d'avoir comme un millefeuille de fresques et de peintures sur les différents murs. Et le choix qui a été fait était de restaurer 1819. Alors qu'on a trouvé quand même dessous des fresques ou des peintures plus anciennes, un jugement dernier du XVIIe siècle, et puis aussi un petit fragment du XVe siècle. Et tout ça est très bien mis en valeur. On voit le décor monumental qui a donné une perspective aux deux chapelles du fond, la chapelle des fonts baptismaux, où il y avait autrefois le tableau des Bienheureuses Martyrs d'Orange, mais on l'a déplacé pour pouvoir y mettre un Christ en croix qui s'harmonise beaucoup mieux avec le décor et qui rappelle surtout que si on est baptisé, on est baptisé dans la mort et la résurrection du Christ. Et puis en face, c'est la chapelle où il y avait la statue de Saint Antoine, mais qui était initialement la chapelle de Saint Éloi et est revenue en décembre dernier restaurée. Un très beau tableau du XVIIe siècle où on voit Saint Éloi en prière avec sa crosse et sa mitre à ses pieds. Et une particularité qui signe le tableau comme appartenant à Orange, on voit à gauche du tableau le mur du théâtre antique. Et puis en tout petit, elle paraît minuscule, mais elle est grande en réalité, l'église des Cordeliers qui est aujourd'hui l'église Saint-Florent, qui est toujours une église paroissiale.
Oui, un tableau qu'on peut situer donc.
Oui, tout à fait, un tableau qu'on peut situer. De même que sur le tableau des 32 Bienheureuses Martyrs d'Orange, on voit aussi le théâtre antique. Et de même que sur le tableau qui est dans la chapelle Sainte-Trope, la charité de Sainte-Trope, où on le voit faire l'aumône aux pauvres et prendre soin des malades, on voit l'Arc de Triomphe.
Rappelez-nous, Sainte-Trope, c'est un Orangeois ?
Sainte-Trope, c'est un évêque d'Orange au 5e siècle qui a été le défenseur de la cité, qui ne s'est pas contenté de construire la communauté ecclésiale, mais qui a pris soin de tous les habitants et qui a évangélisé non seulement par la force de la parole, mais aussi par la tendresse de la main. Nous avons ces reliques dans un très beau bras reliquaire de l'orfèvre Armand Caillat à la fin du XIXe siècle, et puis aussi dans le sanctuaire, dans le chœur, un vitrail qui indique que c'est le patron de la ville et qu'il est honoré dans cette cathédrale.
Alors cette cathédrale, elle a abrité des évêques ?
Alors c'était une église cathédrale jusqu'à la Révolution française, et Sainte-Trope et Saint-Florent, qui a été la deuxième génération d'évêques après Sainte-Trope, ont contribué à l'implantation de la foi. Ensuite, il y a eu toute une succession d'évêques jusqu'à Monseigneur Jean de Tulle en 1608 qui a relevé la cathédrale, et puis jusqu'à Monseigneur Dutillet qui a été le dernier évêque jusqu'à la Révolution, dont un très beau cénotaphe se trouve aussi dans la chapelle Sainte-Trope avec un palmier. Le juste fleurira comme un palmier. Et lorsqu'on a ce psaume dans la liturgie, je montre le cénotaphe aux paroissiens en leur disant « Voilà, vous avez un exemple de sainteté dans ce dessin. »
Ça explique aussi la dimension de cette église qui est très grande finalement et qui est
super bien éclairé. Ça ajoute pas beaucoup, hein.
Oui, alors je remercie la municipalité d'avoir fait en sorte que la restauration de l'église s'accompagne avec une restauration complète des éclairages qui a eu lieu l'été dernier, ce qui permet de mettre en valeur les décors et les tableaux restaurés ou qui vont encore être restaurés.
Magnifique aussi, bien sûr, on parle des martyrs d'Orange quand on est ici.
Oui, parce qu'elles étaient en attente de jugement dans la prison dite de la Cure, qui est au chevet de la cathédrale. Elles ont versé leur sang sur le cours Saint-Martin, aujourd'hui le cours Aristide Briand. Et puis nous avons leur sépulture avec les 300 autres victimes de la terreur au champ de la Plane, là où est érigée maintenant la chapelle de Gabay. Et chaque année, nous avons la neuvaine aux Bienheureuses qui nous amène à la grande fête du 9 juillet. Et cette année, ça sera le 225e...
C'est une année particulière.
Exact.
Oui.
Le 225e anniversaire de leur martyre. La cause de canonisation a été relancée par notre archevêque et le postulateur est le père Hubert Lelièvre. Et nous avons, outre le tableau des Bienheureuses, au moins deux reliques dans la cathédrale. Alors des reliques au sens large, une statue de Sainte Anne qui était au couvent du Saint-Sacrement à Bolène et puis aussi un crucifix qui était au Saint-Sacrement de Bolène.
On parle beaucoup des statues et des peintures, mais en fait, la peinture sur les murs elle-même ne surcharge pas. Elle est très surprenante dans cette église.
Oui, et c'est vrai qu'elle est une catéchèse à part entière. Si on regarde l'arc triomphal, on peut tout de suite se tourner vers Notre-Dame, la Vierge Marie dans le mystère de son Assomption, avec les deux médaillons belles comme la lune et brillantes ou éblouissantes ou choisies comme le soleil. Le mystère de Notre-Dame, la cathédrale porte le titre de Notre-Dame de Nazareth, comme celle de Vaison et comme l'église de Valréas et tant d'autres. Et nous avons dans le chœur un cycle de tableaux, une annonciation, une visitation qui sont des copies de Mignard et qui ont été rapportées après restauration en décembre dernier, juste 3 jours avant Noël. C'était un beau cadeau de Noël. Mmh. On a aussi une très belle naissance de la Vierge, la fête du 8 septembre, une très belle présentation de Jésus au temple, la fête du 2 février, et puis une très belle chapelle de la Vierge Marie qui a été restaurée il y a une dizaine d'années, un petit peu plus maintenant, où on a une présentation de Marie au temple le 21 novembre, hein, donc quand elle a été conduite à l'école du temple par Anne et Joachim pour y être éduquée dans la foi.
On sent que grâce aux images qui sont dans votre église, vous en profitez pour reparler à chacun des évangiles et de l'histoire de Jésus.
Absolument. Et
ce qu'on voulait.
On est dans un audiovisuel sur des écrans. Et quand on vient dans nos églises, on a un visuel et aussi un audio, puisqu'on a l'orgue qui arrive. Tactile, tangible, avec une vibration, avec des couleurs. Et pour revenir à la chapelle de la Vierge, on a bien sûr une évocation des litanies de la Vierge Marie sur l'arc. Et puis un très beau vitrail tardif de la fin du 19e siècle, mais qui reprend ce qu'il y a à la Trinité des Monts.
Une église bien propre et bien entretenue. Vous avez tout un conseil qui s'agite autour de vous pour ça?
Oui, à l'Association du patrimoine religieux et de l'Orgue d'Orange qui s'implique, qui s'est beaucoup impliqué pour l'orgue, mais qui s'implique aussi pour promouvoir la beauté des églises. Maintenant, comme dans toute commune, c'est la municipalité qui a voulu, de manière très
soutenir votre église,
très forte,
qui est sympathique.
Faire en sorte que cette cathédrale, cette ancienne cathédrale, soit digne de son histoire, soit digne de sa réputation, et que aujourd'hui encore, elle soit un lieu d'accueil des paroissiens, un lieu d'accueil des visiteurs, et finalement un lieu de catéchèse.
Alors, ce qui vient d'arriver, c'est l'orgue. C'est quand même un grand point d'orgue. On pourrait dire, vous allez avoir une fête tout à fait spéciale pour cette installation.
Oui, à la fin du mois, le samedi 22 juin à 11h, Monseigneur Quatennens bénira l'instrument selon le rituel. Et nous aurons un concert d'inauguration l'après-midi par Jean-Pierre Lecaudet et Luc Antonini, qu'on ne présente plus à RCF Vaucluse. Et le lendemain, le dimanche 23, nous aurons un concert de clôture de ces festivités par Thomas Hospital, le jeune organiste titulaire de Saint-Eustache à Paris, qui vient nous réjouir par un programme que je ne dévoile pas, mais que j'invite les auditeurs à venir écouter. Ce qui est très intéressant, c'est que l'orgue était commandé depuis longtemps avant que j'arrive, et j'ai eu la chance, cette année qui vient de s'écouler, de suivre les travaux de son installation. Donc il est placé sur la tribune qu'avait fait construire Mgr Dutillet à la fin du XVIIIe siècle, dans l'intention d'accueillir un orgue, et de fait au XIXe siècle...
Il fallait le remplacer.
Il y avait un orgue qui était essoufflé, qui avait été restauré au début du XXe siècle, et puis il était essoufflé de nouveau. Et là, a été conçu un orgue tout neuf, reprenant quand même des tuyaux de l'ancien orgue, de l'orgue Puget, mais le buffet et tous les grands tuyaux de montre et de chamade sont entièrement neufs. L'atelier Pascal Coirin a donc, depuis le mois de novembre, installé un échafaudage, amené tous les éléments de bois du buffet, puis fait monter avec beaucoup de délicatesse chacun des grands tuyaux de montre. Bon, des tuyaux de 16 pieds, ça fait quand même une hauteur. Et puis, petit à petit, de semaine en semaine, dans le courant de l'hiver, sont arrivés les jeux, les uns après les autres, installés à sa place.
Vous avez vu petit à petit la naissance de cet orgue.
Voilà, alors bon, j'ai eu le privilège...
Pour vous, musicien, en plus de ça, c'est une grande récompense, non ?
Oui, j'ai eu le privilège de... C'est plus qu'une récompense, c'est un cadeau, parce que j'ai rien fait pour moi. Et du coup, j'ai pu monter et régulièrement voir comment travaillaient les menuisiers, comment travaillaient aussi ceux qui ont fabriqué les tuyaux, parce que c'est une spécialité. Il faut faire fondre les métaux dans des alliages. Et puis aussi celui qui fait l'harmonisation et l'accord de chaque tuyau, de la bouche jusqu'en haut du tuyau, avec quelquefois un coup de ciseau, avec une dextérité d'artisan qui m'a fasciné. Et puis maintenant commencent à arriver les organistes qui essayent et qui trouvent que c'est un instrument qui est extrêmement polyvalent et riche de promesses pour le répertoire. Et aussi pour les improvisations, pour le répertoire, parce que on peut jouer toute la musique depuis les origines de l'orgue jusqu'aux œuvres contemporaines, Vidor, Duruflet, Alain, mais aussi on pourra faire des improvisations avec des systèmes de registration que permet la transmission électronique et progressive. Dans un orgue classique, on a des vergettes, on a des petites tringles qui vont de la touche du clavier jusqu'à la bouche du tuyau. Ici, toute la transmission est électronique, ce qui permet des accouplements et des mixtures et toutes sortes de... Moi, j'y connais rien en orgue, mais je découvre petit à petit. Et donc, il y a beaucoup d'espérance. Donc, après, ça nous obligera évidemment à accueillir des concerts d'orgue, mais aussi à changer un petit peu notre façon de célébrer pour la communauté paroissiale, puisqu'il faudra s'adapter un peu à l'instrument qui a un temps de résonance et d'entrée en jeu, mais beaucoup de joie, beaucoup de joie.
Donc on donne rendez-vous
ce 22 juin, samedi 22 juin, le lendemain de la fête de la musique, à 11h pour la bénédiction et l'inauguration. On donne rendez-vous à 18h ce même samedi 22 juin pour le premier concert inaugural par Jean-Pierre Lecaudet et Luc Antonini. Et on donne rendez-vous le dimanche matin, parce que ce sera la première messe solennelle avec l'orgue. Et nous avons une surprise dans le sens où c'est l'ancien curé d'Orange, Mgr Bernard Ginoux, qui viendra à cette occasion et qui célébrera pour la communauté paroissiale. Ça sera Jean-Baptiste Dieval, qui suit l'école d'orgue avec Jean-Pierre Lecaudet à Avignon, qui nous accompagnera et qui deviendra un des organistes habitués. Et le dimanche 23 à 16h, nous aurons donc Thomas Hospital pour un deuxième concert.
Eh bien, merci de nous avoir accueillis ainsi et de nous préparer une église vraiment rutilante.
Oui, cette église qui est la maison de prière et la barque du salut. Je termine sur cette évocation parce que les deux médaillons qui ont été trouvés au mur occidental et qui font écho aux deux médaillons qui racontent Marie, belle comme la lune et choisie comme le soleil. Les deux médaillons qui ont été trouvés indiquent un oratoire, une prière. Ma maison est une maison de prière. Et puis un trois-mâts barque avec l'inscription, c'est le bateau, la nef, dans laquelle nous sommes transportés en sécurité. Et c'est vrai que le sens d'une église, c'est d'accueillir les fidèles, de les aider dans leur progression, de venir leur donner la nourriture de la parole de Dieu et du corps du Christ dans l'Eucharistie pour qu'ils repartent accomplir leur mission dans le monde avec joie et espérance.
Merci beaucoup.
Merci Anne-Marie.